Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et c'est comme ça tous les soirs dans Tech & Co, une heure pour débriefer l'actu avec nos meilleurs experts. Perle Bagot est avec nous, bonsoir Perle.
Bonsoir François.
Qui est experte en innovation digitale, un grand bonsoir et ravi de te retrouver sur le plateau de Tech & Co. À tes côtés c'est Salim Assad,
ouais,
salut Salim, associé chez Newfound. Et puis Enguerrand Renaud nous fait l'amitié d'être là ce soir.
Salut Enguerrand, François.
Bonsoir, consultant chez Imachette et auparavant tu étais journaliste au Figaro, spécialisé dans la tech. Alors plein de sujets passionnants, ce soir on va parler du très haut débit par satellite avec Kuiper qui a pas mal de retard finalement, mais visiblement tout ça est en train de se mettre en place. On parlera aussi, dont je le disais, de Meta avec son abonnement payant qui ne passe pas en Europe. Comment va réagir Meta? Tiens, ça va être intéressant, hein, parce qu'il y a de lourdes amendes à la clé aussi, peut-être. On parlera aussi de cette affaire Nvidia avec l'autorité de la concurrence qui enquête justement sur Nvidia. Ça, c'est en France, hein, pour abus de position dominante. On parlera aussi du prochain iPhone qui pourra avoir une meilleure autonomie et surtout qui pourrait être plus facilement démontable. C'est ce qu'on a souvent reproché en fait aux produits Apple, qui étaient un peu des usines à gaz, hein. Il fallait avoir un bac plus 10 pour pouvoir réparer son téléphone. Peut-être que tout ça est en train de changer grâce encore une fois à l'Europe. Bref, plein de bons sujets. Messieurs, dames, c'est parti. Je vous propose de commencer par Kuiper. Donc, Kuiper, le projet titanesque de Jeff Bezos. Vous savez qu'il y a Elon Musk et Jeff Bezos, hein, nos deux gros milliardaires américains, qui sont d'ailleurs sur pas mal de terrains. Ils sont énormément sur la santé. Enfin, ils ont pas mal de choses en commun. Je ne sais pas s'ils s'apprécient beaucoup. Je ne suis pas sûr, mais visiblement ils ont un projet, c'est qu'ils veulent couvrir donc la planète entière d'Internet avec, vous le savez, cette nouvelle technologie de satellites basse orbite, hein, qui sont entre 500 et 600 km d'altitude et qui permettent d'avoir un très bon débit, des petites antennes et puis surtout un temps de latence très faible puisque on n'est pas obligé de monter très très haut pour capter le satellite. L'actu du jour, c'est que Kuiper, certes, prend du retard, sera prêt sans doute en 2025, mais et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Enguerrand, la France vient d'autoriser, en tout cas l'ARCOM en quelque sorte, vient d'autoriser...
L'ARCEP. Voilà, c'est l'autorité des télécoms, l'ARCOM
c'est les médias.
C'est les médias, enfin bon, c'est
médias une autorité indépendante. Oui, c'est l'ARCEP, et donc l'ARCEP a donné son autorisation pour avoir des finalement Kuiper puisse marcher sur le sol français.
Alors effectivement, heureusement pour Kuiper, ils n'ont pas que le marché français, parce que le marché français est tout petit pour les...
Oui, là c'est un marché mondial finalement.
Voilà. Alors Kuiper lance lancera d'ici à 2025 sa constellation, hein, de ce qu'on appelle sur les orbites basses, Léo. Il y a déjà Starlink, il y a déjà OneWeb qui est du français Eutelsat. Il y avait un projet européen qui était Iris Square, mm-hmm, avec des industriels européens et OneWeb.
On en parle un peu moins.
Et puis il va y avoir d'autres constellations d'État comme la Chine, comme l'Inde. Il va y avoir beaucoup de constellations. C'est pour effectivement connecter une partie de la population qui n'a pas accès à Internet. C'est évalué à 500, 600 millions de personnes maximum. Alors on le voit, c'est stratégique.
Ils n'ont pas la 4G, la 5G.
Exactement.
Ou la fibre.
Voilà, on l'a vu, c'est stratégique. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, c'est extrêmement stratégique. Le modèle économique de ces constellations est très très compliqué parce que une génération de constellations, faut les envoyer. Donc ils comptent sur Blue Origin qui est son lanceur, mais aussi sur Ariane, et Starlink compte sur effectivement les fusées d'Elon Musk. Il faut l'envoyer, il faut faire 2000, 3000 tout petits satellites, il faut les envoyer, il faut les opérer, et derrière il faut commercialiser, c'est-à-dire en règle générale on offre le décodeur. Le tout, ça coûte 2 milliards, 3 milliards. Et la durée de vie d'une génération, du moins la première génération, ça ne va pas durer très longtemps.
C'est 5 ans, non? On dit
ouais, voilà. Par satellite. Donc on les met à la poubelle et on remet une deuxième génération à 3-4 milliards. Tout ça pour 500 millions de personnes qui n'ont accès à rien, c'est-à-dire un marché tout petit. On peut s'interroger sur la validité du modèle économique. Ça, c'est à peu près sûr. On ne sait pas ce que gagne ou ce que perd Starlink aujourd'hui. On ne sait pas.
Mm-hmm.
On ne sait pas.
Mais c'est vrai, c'est assez flou.
C'est dans la nébuleuse. A priori, il aurait 10 milliards d'euros
de
chiffre d'affaires. Mais l'offre n'est pas chère. Hein. L'offre est pas chère et ils offrent les décodeurs. Donc
oui, c'est le prix d'un abonnement en fibre.
C'est le prix 40 euros.
Voilà, 40 euros.
C'est 40 euros. Ça.
Plus de 250 euros le
petit boîtier.
Et pour terminer, le marché français, honnêtement, il est, à part quand on est en haut d'une montagne, il est quand même très très bien couvert par l'internet fixe et l'internet mobile. Donc le marché français, c'est bien, ils y rentrent, ils ont l'autorisation de l'ARCEP, mais c'est pas ce marché-là qu'ils vont viser.
Non, c'est clair. Ouais. Perle, sur ce sujet.
Non, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment cette bataille entre les gros acteurs historiques de la tech, où finalement le ciel, l'espace et le nouveau terrain de jeu, que ce soit pour amener la vie dans l'espace ou pour développer les infrastructures terrestres via le ciel. Et ce qui est important dans ce type de dispositif et de satellites, c'est le réseau. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait un nombre conséquent de satellites qui sont envoyés. Donc effectivement, ça demande un investissement assez colossal. Je crois que Amazon a déjà investi plus de 10 milliards pour développer justement ce réseau.
Mais alors qu'ils n'ont lancé que deux satellites.
Alors qu'ils n'ont lancé que deux, ils sont censés en envoyer 1600 d'ici 2026 sur effectivement un engagement qu'ils ont pris, 3500. Quand on regarde les concurrents avec Elon Musk, Starlink, qui sont à peu près à 5600 satellites déjà déployés, c'est assez effrayant parce qu'on se dit il va y avoir un embouteillage, ce qui est déjà un peu le cas, hein, de satellites dans le ciel qui, à un moment ou à un autre, va venir quand même se parasiter les uns les autres. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de couvrir complètement, et notamment dans des zones qui sont peu accessibles, ou qui ne bénéficient, soit elles sont peu accessibles parce que des conditions naturelles, soit parce que les infrastructures ne sont pas développées, comme par exemple des pays typiquement en Afrique ouais. Voilà, ou en Asie, dans certaines zones. Et ils ont tout intérêt, ces acteurs-là de la tech, ont tout intérêt à être vraiment dominants. Parce que, en fait, une fois qu'ils ont développé ces infrastructures-là, après, il y a quand même une dépendance assez forte qui se fait de la part à la fois des gouvernements, des entreprises et puis plus globalement des consommateurs.
Et avant de donner la parole à Salim, juste une précision. Tu disais que le marché était estimé à 500 millions d'utilisateurs. Je pense que ça peut être beaucoup plus parce que quand on voit ce que Starlink est en train de faire avec les téléphones, parce que il faut savoir que demain, avec ton téléphone, même si tu as un téléphone de qui a quelques années, tu pourras capter en fait un réseau 4G ou 5G depuis en fait Starlink, et j'imagine que Kuiper va faire la même chose. En fait, il y a peut-être finalement un réservoir d'utilisateurs qui peut être beaucoup plus élevé.
Alors il y a la difficulté. Il y a eu beaucoup d'études sur ce marché, savoir si effectivement il était grand ou pas grand. C'est-à-dire que même en Afrique, enfin moi j'y suis allé pas mal de fois, on voit que les grandes villes sont fibrées très 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 vite. C'est vraiment de la fibre. Alors c'est pas de la fibre enterrée. Et les grandes villes.
En fait, dès qu'on sort des.
Oui, mais le marché, j'allais dire, pertinent et le marché solvable, il est dans les grandes villes. Et il y a beaucoup de grandes villes en Afrique. Hein. Il y a des très, 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 très grandes villes. Elles sont très, 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 très vite fibrées en ce moment. Donc, et Perle, tu as absolument raison. C'est un enjeu majeur. Parce que, aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas tous les grands GAFA. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Netflix en Afrique, c'est rien. Google, c'est pas grand chose. Ce qui est en train de se faire, on a vu les GAFA déployer des câbles sous-marins tout autour de l'Afrique. Là, ça y est, ils ont déjà beaucoup investi. Après, une fois qu'on a déployé ces câbles sous-marins autour de l'Afrique, eh bien, on
connecte les pays et les continents.
Et à la fin, il y a la connexion par le ciel. Mais est-ce que le marché va grandir? C'est pas évident.
En fait, il y a un modèle économique qui est assez hybride. En fait, Starlink a la possibilité, ou les constellations, pas uniquement de vendre directement aux consommateurs pour 40 euros par mois, mais s'allier avec les opérateurs pour faire des offres communes. Donc pour les opérateurs, au lieu d'investir massivement dans de l'infrastructure, continuer à faire de la fibre, etc., ils peuvent s'allier aux opérateurs de constellations de satellites pour faire des offres. Alors je sais que par exemple Starlink s'est associé avec Free pour un certain nombre de parties de pays, même
européens. Je crois qu'aux États-Unis, Starlink s'est associé à T-Mobile,
c'est
non
le cas, c'est le cas en Australie. Mm-hmm. Et je crois comprendre qu'effectivement, un certain nombre d'éléments du business model de ces constellations sont pas directement uniquement adressés aux consommateurs, mais aussi pour faire des associations avec les opérateurs. Maintenant, si je prends Kuiper, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont deux satellites en LEO. Starlink en a quand même 5000. Ils doivent en lancer 3500 dans les 2-3 prochaines années, en sachant que le goulot d'étranglement, c'est le lanceur. Et le lanceur, aujourd'hui, c'est la propriété de Starlink. Mm-hmm. Je crois qu'ils font aux États-Unis, 90% des lancements sont faits par SpaceX. Et dans le monde, ça doit représenter à peu près 50%. Et on voit mal aujourd'hui, sauf grosse pression, évidemment, c'est leur concurrent direct. Donc on voit mal Amazon lancer ses satellites via SpaceX, à part si SpaceX leur fait des prix absolument démentiels. Donc c'est vrai qu'il y a un double retard à rattraper. Il y a un retard à la fois sur le lancement, Il y a un retard technologique parce que eux, ils sont déjà là depuis quelques années, ils peuvent compresser les prix. Et forcément, il y a un temps d'apprentissage, hein, parce qu'au début, on lance des satellites, ça marche pas. Je crois qu'il y a une déperdition de peut-être 10, 20, 30% dans les premiers lancements. Donc, ouais, ils vont mettre du temps à rattraper le retard, mais je pense que c'est surtout au niveau du lancement que ça va faire mal.
C'est embêtant parce que c'est.
Il a absolument raison. Le lancement et la géostratégie expliquent beaucoup. Il y avait les Russes qui lançaient beaucoup.
Oui. Beaucoup, c'est fini.
On est d'accord. Les Russes, c'est fini. Blue Origin, ça marche moyennement. Ariane 6.
A du retard.
Voilà. Mais on attend Ariane 6 quand même. Là, il y a un trou.
Et parce que Ariane a passé un énorme accord avec Amazon, justement,
exactement,
pour lancer,
exactement,
je sais pas combien de
millions
de satellites.
Donc là, aujourd'hui,
si
on veut lancer SpaceX, les Russes, c'est fini. Les Chinois, c'est pas encore.
Ouais.
Ariane, c'est pour bientôt. Et Blue Origin, on sait pas quand. Et
SpaceX, c'est de loin.
Le goulot d'étranglement, c'est vraiment le point le plus important.
Et je pense que SpaceX, vu qu'ils ont leur fusée réutilisable, etc., et leur lanceur réutilisable, aujourd'hui, c'est de très loin les moins chers. Mmh. Donc, quand on est dans une, entre guillemets, dans une conquête spatiale ou quand on a envie de lancer des satellites, se passer de SpaceX, c'est quand même un gros handicap par rapport à la concurrence. Et donc, effectivement, le succès, je pense, de Kuiper va forcément passer par un développement de l'activité de lancement par Blue Origin. Et ça, on n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui à ce stade pour être optimiste ou pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma lecture.
Et espérons que le premier lancement d'Ariane 6 qui est prévu le 9 juillet se déroule comme il faut,
voilà,
pour qu'après on puisse monter en puissance.
Exactement.
Et bien contenter le client Amazon qui, doit envoyer, on le disait, des milliers de satellites. Ouais. Intéressant tout ça. Donc je pense qu'il y a en fait effectivement 500, 600 millions de personnes qui peuvent avoir accès à Internet grâce à ces...
Mais le gros marché, c'est le B2B.
C'est le B2B. Pourquoi oublier les avions aussi, les bateaux. Aujourd'hui, les bateaux. On voit qu'il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui passent des accords avec Starlink, justement.
Les grands armateurs ont des...
Voilà.
Mais alors là, c'est...
Les croisiéristes.
Oui, mais là, c'est assez intéressant parce que dans ce cas-là, ils n'ont pas un besoin de latence extrêmement réduite. Et donc, il y a trois types de constellations. Il y a orbite basse, LEO, il y a orbite moyenne, MEO, et il y a orbite haute, les fameux géostationnaires.
Qui sont à 36 000 km.
Et quand tu as un opérateur qui a des positions orbitales sur les trois, d'accord, ça permet d'offrir, parce qu'un bateau, il n'a pas besoin d'être connecté seconde après seconde, il peut être connecté toutes les...
Tout dépend ce que tu...
4,
tout dépend quel type de bateau. Je parlais des croisières.
Oui, alors.
Enfin, c'est un marché quand même assez important, tu vois.
Oui, mais la planète est quand même sillonnée par des gros porte-conteneurs.
Bien sûr, aussi.
Et eux, ils n'ont pas besoin d'avoir une latence de quelques dixièmes de seconde. Ils peuvent avoir une latence un peu. Donc, des offres combinées. En fait, on va vers des offres très combinées entre les opérateurs télécom terrestres, les opérateurs LEO, MEO et GEO. C'est complexe, mais c'est...
Non, mais c'est intéressant. On va voir comment tout ça évolue, parce que on le disait, hein, Starlink, donc la Kuiper, mais on parle de OneWeb et peut-être aussi d'un acteur souverain européen. Ça serait peut-être pas mal aussi qu'on ait une souveraineté dans cette technologie.
C'est un beau projet.
On verra bien, sans compter évidemment les Asiatiques qui vont sans doute avoir aussi leur constellation. On enchaîne avec un autre sujet. Cette fois-ci, c'est l'Europe qui, encore une fois, tape sur les doigts de Meta, avec cette proposition qui avait été faite par Meta il y a quelques mois de cela, rappelez-vous. En gros, soit on donne quelques euros par mois, au début c'était 10, on est passé à 5 je crois, et pour cette somme-là, vous n'avez plus de pub sur Facebook.
Ouais.
Bon, voilà, je ne sais pas si beaucoup de monde serait prêt à donner 5 euros pour ne plus avoir de pub sur Facebook. On n'a pas d'ailleurs de chiffres de la part de Meta, puisque tout ça est effectif, ça marche déjà.
Ouais.
Vous pouvez, si vous voulez, donner 5 euros par mois pour ne plus avoir de pub sur Meta. Mais alors, pourquoi tout ça? Et donc, soit 5 euros, soit on reste comme avant, et on a la pub comme avant. Voilà, c'était un petit peu le deal qu'avait passé en tout premier lieu l'Europe et Meta. Sauf que l'Europe dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, et ce n'est pas parce qu'on va payer qu'on peut s'affranchir de la publicité.
Ouais.
En fait, ce que veut l'Europe, c'est que nous, en fait, utilisateurs européens de ces réseaux sociaux, on ait le choix. Soit on a toute la publicité qu'on veut cibler, mais ça, il faut qu'on le veuille. Soit, si on ne le veut pas, on a de la publicité, mais moins ciblée, pour qu'on puisse préserver, en fait, notre vie privée, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ce que propose Meta. Meta, c'est où toute la pub, ou alors un abonnement à 5 euros. Et visiblement, l'Union européenne n'est pas du tout d'accord avec ça.
Oui, c'est la première décision du nouveau commissaire européen, Thierry Breton.
Oui.
Donc ça, il l'a dit sur X. Il a, bon, voilà, il refait saison 2 Thierry Breton
saison 2.
Voilà. Bon, ça c'est très très bien. Depuis le début, on avait eu l'occasion d'en parler. La proposition de Meta, c'est quand même un contournement de l'esprit des règlements européens et du DMA. Ce que tu rappelais très bien, l'esprit, c'est donner aux consommateurs le choix d'être ciblé ou pas ciblé. Et effectivement, l'idée, c'est que le consommateur retrouve la pleine et entière utilisation de ses données personnelles. Et Meta avait quand même, c'était pas dans l'esprit. C'était pas très clair, on en avait parlé ici. Est-ce que l'Europe acceptera ou n'acceptera pas? Là, c'est clair. Donc, ça veut dire que l'offre de Meta ne doit plus être valable, et ça veut dire qu'ils vont être obligés de passer sur une publicité beaucoup moins ciblée et de redonner à ses utilisateurs la maîtrise des données personnelles.
Parce que finalement, en fait, ça revient à dire on vous fait payer pour protéger votre vie privée.
Voilà.
Pour protéger vos données qui sont, vos données personnelles. Et le sujet, c'est moins le fait de faire payer d'avoir un prix, hein, puisqu'après, ils ont proposé de diminuer le prix de l'abonnement. C'est pas un sujet de prix, c'est un sujet presque de conception philosophique de se dire non. Là, en faisant ce dispositif, ça veut dire qu'on monétise finalement le droit de pouvoir protéger sa vie privée.
Et ça veut dire qu'en creux, si on ne paye pas, ce n'est pas protégé.
Exactement.
Or, ce que demande l'Europe, c'est que ce soit protégé partout et tout le temps. Donc c'était ça l'ambiguïté.
Je me rappelle quand j'avais créé un compte Facebook pendant mon adolescence, il y avait cette phrase, c'était « Facebook is free and always will be ». Et c'est resté un truc qui était resté pendant 10 ans sur Facebook. Ouais. Et un jour, discrètement, ils l'ont supprimé du jour au lendemain. Je crois que c'était 2019-2020. Et moi, c'est vraiment une phrase qui m'avait marqué. Je me suis dit, mais voilà, c'est quand même c'est une phrase qui est très très forte, qui montre que voilà, c'est une entreprise qui a des valeurs. On voit très bien qu'en fait, ils ont complètement changé de cap. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont dans leur droit de dire, en fait, on propose une solution. Et la Commission européenne dit que, en fait, c'est une proposition entre guillemets forcée. Maintenant, l'amende de 10% de leur chiffre d'affaires, Facebook, c'est quand même, je crois, l'année dernière, quasiment 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce serait une amende qui serait autour de 12 milliards d'euros. Ouais,
ça commence à se faire.
Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? En sachant que dans l'ensemble des amendes cumulées que Meta a eues, je crois, depuis le début de ses affaires, donc depuis à peu près une dizaine d'années, c'est 2,5 milliards. Donc, ça représenterait plus de 5 fois la totalité des amendes qu'ils ont déjà payées. Donc, il y a des raisons de penser qu'on n'arrivera pas à ce total-là, mais bon, c'est peut-être un élément dissuasif.
Alors, ça va être intéressant de voir comment va réagir Meta. Alors, ils ont le temps, hein, puisque là, tout ça, ce sont des décisions sur le temps long. Hein. Je crois qu'ils ont un an pour répondre, en tout cas pour dialoguer avec la Commission européenne. Pour
ils ont une armée d'avocats, donc.
Un terrain d'entente, en effet. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que le socle du business de Meta, c'est la pub.
C'est 90% de son chiffre
d'affaires. Et c'est la pub ciblée.
Bah oui.
C'est ce qui fait qu'un annonceur est prêt à mettre beaucoup d'argent pour pouvoir toucher Enguerrand, Perle ou Salim avec des pubs qui vont matcher avec votre profil. Donc là, si on a deux types de comptes et avec de la publicité moins ciblée, je ne sais même pas si Meta sait le faire, en fait, ça. Si c'est dans leur modèle.
Je pense que si dans leur argument, c'est que c'est techniquement impossible, il ne faut pas les croire. Hein.
Non, je pense qu'ils doivent avoir un plan B.
Voilà. Donc, je pense qu'on peut évacuer cet argument. L'argument du modèle économique, c'est effectivement le meilleur, parce que ça voudrait dire que sur un marché de 350 millions de consommateurs, qui est le marché européen, ils accepteraient ce qu'ils n'acceptent pas dans le reste du monde. C'est une première. Ça veut dire que effectivement, un jour, les Américains diraient, oui, mais pourquoi pas moi? Enfin, dans ce cas-là. Et puis après, les Indiens diraient, oui, pourquoi pas moi? Donc, il y a effectivement un risque sur le chiffre d'affaires de Meta, 120 milliards, qui est important. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas se plier et de payer 12 milliards pour ne pas mettre en risque les 120 milliards? C'est ça qui va être en jeu. En attendant, effectivement, il y a un an, deux ans de procédure. Ça va prendre du temps et ça va payer les avocats.
Voilà, l'Europe.
C'est une négociation. Il y a tout un écosystème autour. Il y a quand même tous les annonceurs qui se plaignent du fait de pas pouvoir faire des publicités ciblées. Enfin, on a déjà de plus en plus de mal à faire des publicités qui ciblent sur Facebook, et ça cause beaucoup de tort aux annonceurs qui ont l'impression d'avoir des coûts d'acquisition qui augmentent en flèche ces dernières années sur Meta. Donc, ça va être une négociation qui va impliquer plus de parties qu'uniquement Facebook, à mon avis, et la Commission européenne. Mais tout ceci, effectivement, va prendre encore des années. Donc, ouais. Moi, à chaque fois que j'entends des amendes, mon premier réflexe, c'est de dire j'y crois pas.
Pour Google, ils en ont pris quand même beaucoup.
Ils en prennent, mais c'est toujours avec un discount de 80-90%.
Oui, non.
Google a toujours payé, on le voit dans ses résultats, enfin, on le voit, Google a payé, il y a eu au moins 3 ou 4 fois des amendes à 3 milliards, 2 milliards et 4 milliards. Ils les ont toujours payés. Il n'y a pas de discount. Hein. Non.
Alors, et là, c'était autre chose, non?
Ça, c'était les amendes anti-concurrence. Maintenant, on passe dans un autre domaine, et vous l'avez, on l'a dit, c'est le DMA. Et le DMA, là, c'est jusqu'à 10%.
Et 20% s'il y a récidive.
Et 20% s'il y a récidive. Donc là, jusqu'ici, toutes les amendes que Margaret Vestager a mis à Google beaucoup, Facebook pas mal, et Apple, on a eu l'occasion d'en parler.
40 milliards
aussi,
Apple. Hein.
40 milliards. Donc, ils les ont toujours payés. Mais parce que c'était des montants raisonnables. 12 milliards, ce que tu viens de dire, Lou?
C'est 10% ou jusqu'à 10%?
C'est 10%.
C'est 10% et s'il y a une récidive, c'est 20%. Oui. Donc ça commence à faire beaucoup. Hein.
Ça commence à faire.
D'où ces chiffres stratosphériques. Alors on ne va pas revenir sur l'affaire Apple, mais c'est vrai que voilà, c'est la même chose qui se passe pour Apple avec le DMA et l'App Store. Là, on est sur l'App Store. Le fait que Apple ne met pas de la bonne volonté pour pouvoir ouvrir son store à la concurrence avec des coûts cachés, des taxes, etc. etc. Et le DMA monte le ton. Hein, la commissaire l'a dit. Elle ne comprend pas la posture d'Apple et donc il y a cette amende. Alors là aussi, ça va prendre des mois, voire des années, mais il y a quand même une amende de 40 milliards d'euros pour Apple sur la table.
Un jour, si on veut crédibiliser le débat, c'est toujours la difficulté de bien gérer la punition. Si on dit que la punition c'est 10%. Et qu'on ne l'applique jamais, c'est pas crédible. Non, c'est si on clair. Dit que la punition c'est 10% et qu'on l'applique une fois, ça fait réfléchir tout le monde. Donc un jour, ça va tomber sur qui?
Quel est celui qui va prendre le premier bonnet d'âne et aller au fond de la classe, dans le coin?
Il y a une grande roue, on ne sait pas si c'est... c'est toujours les mêmes usual suspects, Apple, Meta ou Google, c'est...
Bon, puisqu'on est dans les... on va dire dans les réprimandes, c'est l'autorité de la concurrence cette fois-ci. Donc là, on revient en France, qui enquête sur Nvidia pour abus de position dominante. Ça arrive à un moment où, franchement, Nvidia est la boîte la plus bankable du monde.
Première
capitalisation boursière. Tout réussit à son fondateur. Je veux dire, là, avec l'IA, ils vendent des processeurs, des chips graphiques, des GPU, des NPU, comme des petits pains. Finalement, tout le monde s'arrache cette puissance de calcul. Mais en France, il y a cette petite musique qui commence à monter, puisqu'il faut savoir que, en fait, il y avait eu une descente de police dans une perquisition dans les locaux de Nvidia France en septembre dernier. Parce que, on soupçonne en tout cas l'autorité de la concurrence, soupçonne qu'il y ait entrave à la concurrence concernant Nvidia.
Ouais, ce qui est très intéressant, parce que l'autorité de la concurrence française est quand même reconnue mondialement pour être une des autorités de la concurrence, j'allais dire les plus sérieuses, et celle qui met vraiment les mains dans le cambouis. Très particulièrement sur le numérique. Et donc là, il faut l'avoir lu. L'autorité de la concurrence a sorti le 28 juin, donc fin de semaine dernière, c'était vendredi. Elle a sorti son étude du marché de l'intelligence artificielle. Alors je vous lis parce que là, c'est très très clair. Elle dissèque le rôle de chacun et elle pointe les risques sur la concurrence. Nvidia est en premier, c'est marqué. Mmh. Et derrière, il y a Google, c'est marqué. Et il y a Microsoft, c'est marqué. Quand on sait ce qu'a fait l'autorité de la concurrence, c'était en 2016. Ils avaient fait la première étude, une étude assez remarquable sur le marché de la publicité digitale, qui est un marché compliqué, très très compliqué, nébuleux. Et à partir de là, ils ont effectivement fait 1, 2, 3, 4 actions. Donc là, ils procèdent à la même chose. Ils font une étude où ils pointent. Donc, ce n'est pas très étonnant que quelques jours après, il y a la petite musique qui dit les premiers à être bonnet d'âne, comme tu dis, ça va être Nvidia.
Encore, il y a une menace, je crois, de 10%, si je comprends bien, de 10% du chiffre d'affaires de Nvidia qui augmente en flèche. Et donc, si ça continue comme ça, parce que la dernière quarter, Ils ont annoncé, je crois, un chiffre d'affaires pas loin de 20 milliards de dollars. Donc, 20 milliards fois 4 fois 10%, ça fait quand même une amende qui est effectivement colossale. Et de ce que je comprends, alors, j'ai pas réussi à comprendre quels étaient les éléments qui étaient mis en avant parce que ça a pas l'air très transparent. En tout cas, c'est pas public aujourd'hui les éléments qui font.
Non.
Mais il y a quelques éléments qui sont de ce que je comprends que. Entre guillemets, le logiciel utilisé pour faire travailler les puces, voilà, le CUDA, est imposé, ou en tout cas est le seul compatible avec les puces à NVIDIA. C'est comme en gros si.
C'est ce que reproche finalement l'autorité de la
concurrence. C'est comme si, quand tu installais Windows il y a quelques années, Windows XP, tu étais obligé d'utiliser Internet Explorer avec Chrome et Firefox. Voilà.
Ça nous rappelle
des vieux souvenirs, mais on a l'impression que l'histoire se répète. Voilà, est-ce que c'est justifié ou pas? Et ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des investissements dans des clouds, entre guillemets, dans des services de cloud qui feront tourner des GPU et qui deviendraient peut-être poussés des acteurs et des partenaires privilégiés avec Nvidia. Mais c'est sûr qu'ils sont en train de créer un écosystème verticalisé avec le GPU. Le logiciel pour l'utiliser et le cloud derrière qui tourne pour faire une offre unifiée et centrée sur sur l'actionnaire Nvidia qui pourra créer de la concurrence déloyale. Ouais, ça c'est sûr.
Exactement ce que.
Ce qui est sûr, c'est que Nvidia depuis ces on va dire 3-4 dernières années, c'est l'entreprise qui a effectivement le plus explosé et qui a pris le leadership sur tout le développement de l'intelligence artificielle, puisqu'en fait ils ont vraiment tellement un outil qui est absolument indispensable pour faire tourner les infrastructures et l'IA et toute la dimension de machine learning, qui sont devenus absolument indispensables. Le sujet, c'est est-ce qu'on laisse effectivement grossir ces gros acteurs pour qu'il y ait ce monopole qui vient du coup effectivement on n'aime pas un marché où il y a un monopole, parce que ça veut dire qu'on est tous dépendants. À la fois, ça veut dire que ça va driver effectivement le marché vis-à-vis des concurrents, qui forcément seront plus petits, mais aussi de tout l'écosystème, des clients, que ce soit des industriels, que ce soit des autres acteurs de la tech, puisqu'ils ont même passé des partenariats où ils influencent directement, typiquement avec Adobe ou Snowflake ou même GameFace, la plateforme open source, où ils développent en fait des environnements qui sont Nvidia compatibles et même qui vont permettre d'être plus performants avec tous les assets d'Nvidia. Donc il va y avoir une dépendance à tous les niveaux et ça va impacter et les concurrents et les clients. Et ça, c'est le sujet dans la tech, du sujet des monopoles. Voilà, est-ce qu'on laisse faire ou pas?
Et pour terminer, l'autorité de la concurrence en France dégaine, mais il faut savoir que le ministère de la Justice américain sera sur le point aussi d'ouvrir une enquête pour le même motif. Donc voilà, ça commence aussi à gronder un peu partout.
Oui, parce que...
On arrête là, il est quasiment 20h30, on a déjà pas mal de retard, mais on pourra revenir sur ce sujet si ça vous dit. Juste après l'info éco, c'est Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite et merci d'être avec nous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour donc de Tech & Co avec ce soir pour débriefer l'actu jusqu'à 21h. Eh bien, Perle Bago, qui est experte en innovation digitale. À ses côtés, c'est Salim Assad, associé chez Newfound, et Enguerrand Renaud, consultant chez Image7. Alors, on a parlé de Kuiper tout à l'heure. On a parlé de Meta et de son abonnement payant qui ne passe pas en Europe. On a évoqué aussi l'autorité de la concurrence qui tape sur les doigts d'NVIDIA. On avait terminé sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on était un petit peu pris par le temps. On a terminé, on passe à autre chose.
Allez,
on passe à autre chose et on passe à Apple. Puisque le prochain iPhone, vous le savez, ça devient maintenant un calendrier assez rodé, bien huilé. Hein. Le prochain iPhone sortira en septembre prochain. Ce sera l'iPhone 16. Alors, on ne va pas parler de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle qui devrait être, on va dire, le gros bonus de ce nouveau modèle, si ça arrive un jour en Europe, hein, puisque là encore, la Commission européenne pourra peut-être mettre son nez là-dedans. Mais on va évoquer l'iPhone parce que, justement, il va être sans doute plus facilement réparable et démontable. Et ça, c'est un point très important qui a été aussi poussé par l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que si on a des prises USB-C sur la plupart de nos appareils, c'est grâce à l'Union européenne qui a poussé en fait tous les constructeurs d'électronique à avoir un seul connecteur en fait universel pour éviter d'avoir plein de chargeurs chez nous. Et finalement, ça fait du bien à la planète tout ça, parce que finalement, avec un seul chargeur, on peut recharger plusieurs produits. Là, eh bien, on passe à la réparabilité. L'iPhone n'a jamais été un champion, hein, Enguerrand, sur ce sujet. Il suffit de regarder les vidéos de iFixit, qui est un peu le spécialiste du démontage d'iPhone. voilà, depuis des années, en fait, les notes n'étaient pas très bonnes concernant l'iPhone. Là, visiblement, Apple va un peu changer son fusil d'épaule. Tout ça, encore une fois, sous la pression de l'Union européenne.
Ah oui, quand tu disais que ce n'était pas réparable, ça faisait partie même du modèle. Du modèle de vie. C'est quoi le modèle de vie? C'est un design. Donc, on ne doit pas l'ouvrir. C'est pas une voiture. On soulève le capot et on change les bougies. C'est un design qui est très beau. Et puis surtout, le fait qu'il soit pas réparable permet de, une fois qu'il marche moins bien, de le changer. Donc ça, c'est quand même.
C'est pas le discours officiel d'Apple.
Jamais été le discours officiel d'Apple. Non, on parle pas d'obsolescence programmée chez Apple. Ça serait un gros mot. Mais ça, honnêtement, ça a toujours été ça. Et c'était à la fois sur le ARM, donc sur l'iPhone. Mais effectivement, la compatibilité avec les versions d'iOS. Puis à un moment, quand on avait un vieil iPhone, on pouvait plus télécharger le nouvel iOS. Donc il fallait le changer. Tout ça, c'est le modèle Apple. Et c'est pas le seul, hein, mais c'est le modèle Apple. L'Europe a un autre modèle, c'est-à-dire qu'elle impose effectivement le fait que ce soit plus simple pour le consommateur. Et deuxième chose, et tu l'as souligné, le fait que ce soit mieux pour la planète. Et le fait d'être réparable, de faire des téléphones qui durent plus longtemps, voilà, donc qui consomment moins de terres rares, qui consomment moins d'énergie pour les fabriquer, moins d'énergie pour les transporter, qui peuvent être réparables, allonger la durée de vie des appareils, ça paraît être une bonne idée.
Alors, est-ce que ça va être le cas? Parce que, encore une fois, c'est qu'une rumeur. Vous savez qu'avec Apple, tant que les produits n'ont pas été annoncés, on ne sait rien. Mais là, visiblement, c'est Min-Chun Kuo, vous savez, cet analyste qui est vraiment au courant des tout derniers secrets d'Apple, qui a balancé ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Perle, par exemple?
Ce qui est sûr, c'est que globalement, c'est le sens de l'histoire. On demande aujourd'hui à toutes les entreprises de faire évoluer leurs produits, de faire évoluer leurs modèles pour rentrer dans un cycle de réutilisation, de revente, de réparabilité, avec d'ailleurs des contraintes réglementaires qui vont être de plus en plus importantes, hein, sur le fait de pouvoir, voilà, vraiment rentrer dans un cycle plutôt virtueux que uniquement de consommation, d'obsolescence programmée ou en tout cas voilà, d'objets qu'on ne peut pas réparer. Donc c'est peut-être une rumeur, peut-être que ça ne se fera pas en tant que tel et peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Le fait est que c'est plus qu'une tendance, c'est une obligation du marché qui est en train de se mettre en place et qui va de fait, de toute façon, demander à tous ces acteurs de la tech de rendre recyclables, réparables, leurs produits, leurs objets. Donc, c'est pas étonnant. En tout cas.
Là, on parle de la batterie, hein, pour l'instant. Attention, hein. Oui, on n'a peut-être pas été très très clair. On parle que de la facilité du changement de la batterie. Finalement,
ouais, hein, Salim. Et ouais, de ce qu'on comprend, alors c'est pas encore très clair parce que évidemment Apple va pas nous confier leur secret.
On va pas avoir le mode d'emploi tout de suite
sur le hardware, mais le fait que la batterie soit entre guillemets pseudo amovible, parce que c'est pas une batterie qu'on va enlever comme dans les Nokia 3310 de l'époque, serait mis dans un espèce de boîtier en métal qui réduirait la dissipation thermique et donc augmenterait ce qu'on appelle la densité des batteries et donc augmenterait la c'est pas encore très clair le pourcentage de, en tout cas la durée de vie, la longévité de la batterie. Alors si c'est le cas, évidemment très bonne nouvelle pour les consommateurs et ça prouverait une nouvelle fois que même si l'Union européenne et la Commission européenne ont la réputation de réguler au lieu d'innover, au final le consommateur peut aussi en avoir pour son argent.
C'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal, même si.
C'est bien de commencer par la batterie, parce que la batterie, c'est le premier, on va dire, organe vital du téléphone qui tombe en rade. Parce que c'est vrai qu'à force de charger, de décharger son téléphone, au bout d'un moment, vous savez, les batteries, c'est un certain nombre de cycles.
C'est de pire en pire, alors que Apple annonce le contraire. En tout cas, moi, c'est ma perception. Ouais. J'ai l'impression que, alors que d'annonce en annonce, Apple annonce que les batteries durent de plus en plus longtemps. J'ai vraiment l'impression que quand la promesse c'est la réalité, ou en tout cas ce qui est affiché.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est vraiment une demande des consommateurs de pouvoir allonger la durée de vie et surtout de pouvoir acheter des téléphones reconditionnés. Et parmi les téléphones reconditionnés, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une grande demande pour les iPhones. D'accord? Il y a une grande tendance, les consommateurs veulent des téléphones reconditionnés. Là encore, c'est bien pour la planète. Et ce qui est bien en plus, c'est bien pour l'emploi. Mm-hmm. Parce que le reconditionnement se fait souvent dans des ateliers en France. Donc c'est plutôt une bonne tendance.
Oui, c'est plutôt intéressant. Alors il faut savoir que dès 2027, l'Union européenne exigera que les fabricants de smartphones Entre autres, parce que là on parle que des smartphones, mais c'est d'une manière générale, un peu comme l'USB-C tout à l'heure, un peu tous les produits électroniques, permettent le détachement systématique des batteries, la possibilité d'en changer facilement. Donc là, on focus sur Apple, mais tous les autres vont y passer. Les Samsung, les constructeurs chinois, etc. Parce qu'après, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être des amendes. Donc l'idée, c'est de pouvoir finalement, très facilement, enlever la batterie, qui, on le disait, l'organe le plus fragile en fait d'un téléphone, pour pouvoir lui redonner une espérance de vie plus longue.
Et puis, ce qui est intéressant, pour moi, il y a deux choses. D'une contrainte, finalement, encore une fois, on a une opportunité d'innovation. Et si la contrainte, c'est de pouvoir rendre la batterie plus facilement amovible, et que l'opportunité, c'est qu'elle puisse, justement, en la faisant évoluer, durer plus longtemps et avoir une durée de vie plus importante, finalement, en contraignant, on arrive quand même à arriver à nos fins. Et puis, surtout aussi, on va avoir des téléphones qui vont être de plus en plus puissants, de plus en plus, surtout Apple, qui veut, on en parlait déjà la dernière fois, qui veut garder, en fait, une partie de l'intelligence et de la puissance dans le téléphone. Et ça va consommer de la batterie.
Ouais.
Donc ça va nécessiter d'avoir des devices qui soient plus performants, des batteries qui vont tenir, parce que c'est beau d'avoir des super services, d'avoir accès à... Mais en fait, si la batterie derrière, elle ne suit pas, parce que la capacité de calcul est dans le device, c'est pas négligeable.
Ouais, c'est vrai.
On va le voir, ouais.
Ce qui est rageant, c'est que cette capacité, ou en tout cas cette capacité d'augmenter la durée de vie de la batterie, existait dans le hardware. Et que c'est une contrainte de...
Oui, finalement, qui a été dictée par l'Union européenne.
Ça veut dire que, entre guillemets, dans la matière, ou en tout cas dans les compétences techniques, Apple avait déjà la possibilité d'augmenter, en tout cas, l'expérience. Et l'a volontairement réduite pour protéger une partie de sa propriété intellectuelle ou son obsolescence programmée ou effectivement des éléments qui sont plus business après. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Business is business.
Après, il faudra rentrer dans le détail, puisque en fait, cette réglementation qui rentrera en vigueur en 2027 doit permettre le détachement systématique des batteries, je le disais, et la possibilité d'en changer facilement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va falloir quand même démonter le téléphone?
Ah oui.
C'est toutes ces questions-là, finalement. Est-ce que ça va être plus facile pour tout le monde, ou simplement pour les bricoleurs du dimanche qui sont un petit peu plus précautionneux? Parce que, si vous êtes avec nous à la télé, on voit derrière Enguerrand des personnes qui démontent les téléphones, et c'est vrai que c'est quand même un truc incroyable, quoi.
J'ai déjà visité des ateliers de reconditionnement. Bon, enfin, moi, je suis pas très doué de mes mains, mais ça va.
C'est clair.
C'est pas si compliqué.
Toi et moi ne pourrions pas, changer la batterie de.
Mais il y a une vraie question, c'est que l'Europe impose une standardisation. Tu l'as dit pour les
l'USB-C.
Les connecteurs USB-C. Et donc. À la fin, et c'est un peu ce que dit Apple, à la fin, il n'y aura plus de spécificité. On aura une standardisation des connecteurs, on aura une standardisation des batteries, et puis après, on aura une standardisation autre chose. Et donc, peut-être qu'on aura moins de différence entre l'iPhone, qui est un monde à part, qui a toujours été un monde à part, qui s'est toujours vécu comme un monde à part, et puis le reste des téléphones, où effectivement, on peut passer très vite. Alors, on a vu les Chinois parler de Huawei, qui a été premier, qui est redescendu, il y a Honor, il y a Samsung qui reste quand même, et puis il y a beaucoup d'autres fabricants, mais Apple, ça a toujours resté un monde à part. Et donc la volonté de l'Europe de lui imposer de la standardisation, ça a du mal à passer quand même.
Ouais, je pense.
Quand même du mal à passer.
Rendez-vous mi-septembre, puisque c'est toujours en général mi-septembre qu'on découvre les nouveaux smartphones d'Apple. On verra bien. Tiens, si on parlait un petit peu d'IA générative, et notamment de ChatGPT d'OpenAI, voilà, sujet aussi passionnant. Il y a plus de 18 mois maintenant, OpenAI balançait ChatGPT, qui a complètement bouleversé, on le voit au quotidien, des métiers, des secteurs. C'est impressionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour que ChatGPT soit de plus en plus bon, il faut qu'il scrolle de plus en plus de données. Voilà, c'est un ogre qui doit se nourrir en fait de data, de textes, de données pour être de plus en plus performant. Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT a fait des choses de manière, on va dire, un peu pirate, sans trop le dire, en aspirant le web.
Comme tu es gentil.
D'un autre côté, on a l'impression que là maintenant, ils essaient un petit peu de s'acheter une bonne conduite, puisque... Comment ?
Ils ont plus d'argent.
Ils ont plus d'argent, ça c'est vrai. Et puis aussi, ils se rendent compte que ça devient un vrai problème, le droit d'auteur. Et donc, ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour signer des partenariats avec des journaux. Alors en France, ça a été Le Monde, par exemple. Ça a été aussi le Financial Times. Et le dernier en date, c'est Time Magazine, qui est, voilà,
prestigieux.
Sans aucun doute, le magazine le plus prestigieux, l'un des magazines les plus prestigieux au monde. C'est intéressant quand même de voir ça.
C'est très intéressant parce que quand tu veux entraîner, une intelligence artificielle sur une base de données, un dataset, t'as le choix et alors, ils le font. Par exemple, ils ont fait un deal avec Reddit. Mais alors, Reddit, il y a énormément de données, il y a énormément. C'est un des forums dans lesquels tout le monde s'exprime. Enfin, c'est quand même très marqué 2024.
Oui, et puis t'as pas que du contenu de qualité sur Reddit.
Voilà. Et tu n'as pas que du contenu de qualité. Alors que là, Times, ça a 100 ans. D'accord ? Donc, alors, je ne sais pas si toutes leurs archives sont numérisées, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais au moins, il y a une profondeur. Il y a une profondeur sur les
sujets. Et surtout, une qualité éditoriale.
Il y a une qualité éditoriale. Donc, en fait, à entraîner sur Times, c'est-à-dire un journal de très grande qualité qui a une très grande qualité éditoriale sur 100 ans, et à côté sur Reddit, on ne sait pas, à un moment, ça, et bon, le Monde, il y a Springer, le Financial Times, et à un moment, c'est là où on va s'apercevoir qu'ils sont très malins, parce que du coup, le New York Times, qui lui a pris l'option inverse, qui est parti en croisade contre ChatGPT et qui a dit on va faire des procès, on va vous gagner de l'argent, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc il y a ceux qui sont opportunistes, voilà. Et là on le voit, la liste, et puis ceux qui sont partis en croisade, à mon avis,
c'est probablement une posture de négociation. Ils savent qu'à la fin OpenAI va faire le chèque, mais en étant offensif
pour le New York Times,
peut-être.
Oh, je pense que c'est du bluff tout ça. C'est pour faire monter les enchères.
Absolument, c'est mon avis.
Perle.
Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Certes, on dit ils sont prêts, OpenAI est prêt à mettre de l'argent avec des médias, mais c'est quand même aussi un acte fort que les médias soient prêts à passer ce type de partenariat avec un acteur comme OpenAI qui est un peu la bête noire finalement de ces trois dernières années. Et c'est intéressant de regarder finalement les avantages des deux côtés. Pour un média, c'est l'opportunité quand même de s'inscrire dans quelque chose qui soit très structurant, d'avoir finalement aussi accès à toute l'innovation et à la technologie et tous les outils que peuvent proposer un acteur comme OpenAI. Et donc, potentiellement, derrière, de pouvoir aussi travailler sur de la diversification, à la fois de services, de contenus et donc de la monétisation. C'est l'air de rien quand même une source de revenus. Il n'y a pas de chiffres qui ont été communiqués, mais on imagine que les deals sont quand même importants. Et puis, c'est aussi quand même quelque part une manière pour eux de garantir ou de protéger le contenu qui est produit dans le cadre de ces médias, de protéger finalement le travail des journalistes, de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, ce qui était quand même très compliqué jusqu'à présent. Donc pour les médias, il y a quand même un enjeu et une opportunité pour eux de finalement de revenir dans le game, entre guillemets, et de contrebalancer le rapport de force avec ce type d'acteur. Et puis effectivement, de l'autre côté, pour des acteurs comme OpenAI, d'être capable de finalement d'avoir une base de données qui soit plus qualitative. Et donc, si la base de données est plus qualitative, les réponses produites,
le contenu
seront de meilleure qualité. Donc, on voit que le marché, l'écosystème est en train de se stabiliser, que les partenariats sont en train de se faire. Alors là, on parle de 3 médias ou 4 médias. Mais c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est un très bon signe.
Mais c'est clairement un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, ça fait complètement du sens que ça existe. Si on prend les modèles d'intelligence artificielle de type OpenAI, aujourd'hui, vous n'avez plus de barrières à l'entrée, ou de très grosses barrières à l'entrée d'un point de vue vraiment technologique. Alors certains ne seront pas complètement d'accord, mais je veux dire, les gros modèles open source aujourd'hui existent. Vous avez OpenAI, Anthropic, Mistral, Google Gemini, etc. La techno, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, et le nerf de la guerre, c'est dans l'acquisition de la donnée de qualité. Et Sam Altman l'a redit plusieurs fois, que ça coûte 50 millions de dollars par an, 500 millions de dollars par an, ou 5 milliards de dollars par an. Notre objectif, c'est de faire progresser l'intelligence artificielle, et quoi qu'il en coûte, on va continuer de payer pour acquérir de l'information qualitative. Et je pense que tu le disais très bien, c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée, mes profs me disaient, tu lis le Time et The Economist et tu vas devenir beaucoup plus fort, c'est très bien écrit, c'est qualitatif, en général les faits sont...
Oui, c'est des références.
Les faits sont checkés, il y a quand même des bases de données extrêmement qualifiées et de grande nature. Et de l'autre côté, on a un phénomène qui est arrivé depuis la digitalisation ou le passage l'usage Internet avec les réseaux sociaux, qui est l'effondrement des business models et des économiques, entre guillemets, de la presse écrite, bah, qui vend de moins en moins de journaux, qui a de moins en moins, qui a de plus en plus de mal à monétiser en ligne. Et donc tout ça fait complètement du sens, parce que tu as raison, je pense que les chiffres ne sont pas clairs. Moi, j'ai pu comprendre que c'était parfois plusieurs dizaines de millions de dollars par an qu'OpenAI payait à ses médias. C'est quand même conséquent et ce serait complètement... ça ferait complètement pas du sens de le faire. Donc aujourd'hui, et c'est arrivé comme c'est un peu un miracle, la presse écrite, ou en tout cas la presse écrite historique, ceux qui ont ils ont peut-être trouvé leur modèle économique.
Alors, ouais.
Ou en tout cas, ça vient à la rescousse d'un modèle économique qui était en perdition.
C'est
intéressant.
Mais là, on est vraiment.
Tous les patrons de presse se posent cette question.
Mais bien sûr. C'est un laboratoire, on ne sait pas trop où on va.
Mais c'est la théorie de la mort lente ou de la mort rapide.
Oui,
je te le fais. C'est assez simple. Première chose, effectivement, ils trouvent que leurs archives valent de l'argent. Donc ils sont assis sur une petite mine d'or, très bien, et le fait de le valoriser, c'est très bien, et c'est de l'argent qui rentre tout de suite, voilà, ça c'est très bien. Le modèle économique va être extrêmement challengé par l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, ils se posent tous des questions, on en discute beaucoup, ils se posent tous des questions, effectivement, jusqu'où on peut aller. Alors, effectivement, utiliser les outils, c'est augmenter l'offre éditoriale, mais utiliser des outils de là à remplacer une faible partie, voire une grande partie de la rédaction, c'est la fin du journalisme, quoi.
Non, mais en revanche, tu peux travailler sur la diversification, là où un journal... Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit les médias se diversifient sur de l'événementiel, sur du tourisme, sur plein d'autres choses.
Ils le font depuis longtemps.
Non, mais bien sûr, donc avec des outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu vas pouvoir potentiellement aller là, sur des terrains où tu ne pouvais pas aller avant parce que ça coûtait trop cher, parce que ça demandait des investissements, de la complexité. Là où aujourd'hui, s'ils arrivent à monétiser...
Sans valeur ajoutée par rapport à d'autres qui iraient au même endroit avec les mêmes outils. Ce qui reste fondamentalement dans la presse, c'est la capacité à produire de l'information vérifiée. Parce que dans la diversification, tout le monde avec les mêmes outils peut y aller. La valeur ajoutée, la difficulté de la presse, c'est quand même de retrouver de la valeur ajoutée. Alors, avec le digital, ils avaient trouvé le modèle de l'abonnement, qui est le modèle du New York Times. Et là, on a retrouvé un modèle. Vraiment, je veux dire, le paradoxe, je le dis tout le temps, le paradoxe de la digitalisation dans la presse, c'est que Ça a multiplié l'audience. Mmh. Ça a explosé l'audience. Ça a multiplié par 10 l'audience. Mais ça a baissé les revenus. Ce qui est un paradoxe dans un média. Normalement, on était tous habitués, plus tu as une audience, plus la corrélation est quasi...
Mais c'était à l'époque du papier, ça, mon cher Enguerrand.
Mmh. C'était à l'époque du papier, il y avait une corrélation quasi parfaite entre l'audience et les revenus. Là, il y a une décorrélation. L'audience explose, les revenus baissent. Mmh. Et c'est très dur à gérer. C'est très, très dur à gérer. Qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle dans ce paradoxe? Je ne sais pas. J'espère qu'elle va donner des ressources supplémentaires. Passion pour la presse, moi.
Ouais, pourquoi un média pourrait pas devenir l'équivalent d'un Forrester ou d'un Gartner, parce qu'avec une capacité à traiter de la donnée, à se diversifier. Ouais. C'est en ça que je parle de diversification. Ouais. Et c'est là où je pense qu'il y a des opportunités qui, a priori, ont compris, puisque ces partenariats se passent, mais de mieux monétiser, la légitimité d'un média, la puissance que ça a, effectivement, d'une information, la crédibilité, pour pouvoir développer d'autres services.
Alors, on ne connaît pas le montant financier, évidemment, de la transaction.
C'est vrai.
Ça, voilà. Est-ce que c'est quelques millions, quelques dizaines de millions?
On parle de quelques dizaines de millions de dollars par an, ce qui est bien sûr colossal.
Oui, pour un organisme, un organe de presse, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
C'est de la marge pure, parce qu'il n'y a rien.
C'est un deal aussi. C'est un deal.
La marge pure, il n'y a aucun coût en face.
Voilà, c'est ça.
Ça vient augmenter le bas de bilan. Directement. Donc
Time Magazine pourra aussi utiliser tous les outils OpenAI en échange, bien évidemment. Alors ça peut être intéressant, c'est ce que tu disais. Peut-être qu'ils vont faire une immense banque de données aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand par exemple vous taperez, je ne sais pas moi, vous poserez une question à ChatGPT, qu'il va puiser dans les données de Time, il va sourcer.
C'est
intéressant.
C'est ça
quand
qui
même.
Est important, et c'est ce que tu disais. C'est vrai que technologiquement, il y a encore des différences majeur, mais ce qui va faire la différence, pourquoi est-ce que j'utilise davantage ChatGPT que Gemini ou Mistral, parce qu'honnêtement on l'a tous utilisé, c'est équivalent, du moins pour les prompts.
L'utilisation que nous on en a.
Voilà, c'est donc on résume pour les prompts de modestes utilisateurs. Mais la qualité de la data, le fait que ce soit sourcé, mais ça va être extraordinairement plus intéressant pour ceux qui font ça. Quoi.
Ouais, donc, moi, je trouve que c'est super intelligent pour les organes de presse qui ont le courage de faire ces... Je ne pense pas que ce soit des partenariats qui soient extrêmement populaires dans les rédactions.
Non, c'est un peu clair.
se vendre son âme au diable. Mais tant qu'il y a une concurrence qui est très forte, qu'il y a de l'argent d'investisseurs privés qui inondent ces modèles d'argent pour investir et continuer à acheter de la donnée, ce paysage-là ne sera probablement pas exactement le même dans 5-10 ans. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut récupérer tant qu'il y a de l'argent à se faire sur la vente de son...
De
sa mine d'or.
Remontons 5 ans en arrière, c'était Meta qui finançait la presse. Ouais. Et Meta a arrêté de financer la presse. Non, mais ce que je veux dire par là...
Ça ne dure pas, ce ne sera pas éternel.
Ça ne dure pas éternellement, tout ça.
Facebook News, ça n'a pas duré. Je me
rappelle de ça.
Mais oui. Google News, Google a financé la presse aussi, on lui a tordu un petit peu le bras avec les...
Oui, ils étaient obligés.
Voilà, mais c'est mais parce que oui, ils ont de l'argent et ils ont besoin aussi de...
Il faut en profiter.
Voilà.
Tiens, dernier petit sujet, alors celui-ci qui est vertigineux. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on a évoqué ce sujet il y a encore quelques secondes. Vous savez que cette intelligence artificielle, le moteur, ce sont ces puces, on le disait, ces processeurs que fabrique Nvidia. Est-ce que demain, on n'aurait pas quelque chose qui soit à la fois biologique et numérique, finalement ? Il y a plein d'études vont dans ce sens, et il y a plein de labos qui travaillent sur des mini-cerveaux avec des neurones. Enfin, je veux dire, évidemment, ce n'est pas nos cerveaux à nous, mais en tout cas, c'est des fonctionnements neuronaux biologiques qui permettent en fait d'accélérer le traitement en fait des données informatiques et qui pourraient aller encore plus vite que les processeurs Nvidia. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ce sujet. On appelle ça, en fait, c'est un nom bizarre, les organoïdes cérébraux.
Oui, tout à fait. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois en mars dernier à South by Southwest à Austin. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qu'on peut aussi appeler le mimétisme biologique. Et d'ailleurs, l'informatique et même l'IA s'est développée en copiant les réseaux neuronaux du cerveau. Et là, avec ce qu'on appelle donc les organoïdes, l'idée, c'est de cultiver en laboratoire des cellules qui vont imiter la structure et le développement d'un organe, là ici le cerveau, qu'on considère être finalement... plus puissant qu'aujourd'hui n'importe quel ordinateur, dans un, sa capacité à gérer de la complexité, dans la flexibilité en fait de c'est des milliards et des milliards de neurones et de connexions qui sont traités extrêmement rapidement. Et donc l'idée, c'est de dire pourquoi on ne va pas encore plus loin et on ne va finalement pas s'affranchir de ces infrastructures et de ces puces qui sont extrêmement consommatrices d'énergie.
Oui.
Et on ne calque pas ça à finalement l'organe humain, le cerveau humain, la manière dont fonctionnent les cellules, qui sont extrêmement peu consommatrices d'énergie et qui sont extrêmement performantes. Et donc, on voit apparaître, depuis ces 5 dernières années à peu près globalement, des recherches dans différentes universités, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, même en Europe d'ailleurs. Alors, ça pose d'autres sujets parce qu'effectivement,
évidemment, éthiques forcément.
Qui vont... si un jour, on arrivait vraiment à en faire quelque chose de performant, qui arrive vraiment dans le monde du business ou même dans le grand public pour des applications, poserait plein de questions. Mais en tout cas, la démarche en termes d'innovation et d'ingénierie est extrêmement intéressante parce que ça permet vraiment de faire un bond dans, et puis surtout de s'affranchir de ce qu'on disait tout à l'heure, de ces infrastructures techno, de ces acteurs comme Nvidia ou de cette consommation.
Non, Salim, mais après en guérant.
Pourquoi pas utiliser finalement un produit qui est le fruit de 4 milliards d'années de R&D qui est le cerveau, parce que c'est 4 milliards d'années de R&D, de développement et d'optimisation de notre espèce humaine.
Avec des investissements colossaux qu'on n'arrive même pas à chiffrer.
Des investissements colossaux de venture capital, de méchants capitalistes américains. Et donc, oui, bien sûr, si on a la capacité de faire la jointure, je pense que ce sera gagné. Mais je suis d'accord avec toi, l'innovation commence, elle existe. Nous, on a reçu des dossiers d'investissement sur cette thématique-là. On n'est pas dans du futur. On n'est pas dans le futur ou dans la Matrix. C'est entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
Enguerrand, pour terminer là-dessus.
C'est extraordinaire, hein, ce qu'un cerveau, 1,3 kg, consommation d'énergie, on prend juste une barre de céréales, et on a un prix Nobel de physique ou de littérature. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. La même chose dans un cerveau lilliputien d'une fourmi, et elle est capable de faire des choses. Donc, J'aime beaucoup l'expression 4,5 milliards d'années de R&D. Mais c'est exactement ça. Ouais. La capacité du cerveau humain. Alors, on ressent tout sur nos cerveaux humains, mais la capacité du cerveau d'un insecte, la capacité du cerveau de n'importe qui, c'est extraordinaire, avec une consommation d'énergie égale à zéro. Et comme la question de la consommation d'énergie est aujourd'hui un peu posée, mais va devenir prégnante dans quelques années, il va y avoir une nécessité de trouver une autre voie.
Voilà, alors ça fait c'est un peu vertigineux parce qu'on c'est se dit peut-être que demain, voilà, on aura des robots mi-électroniques, mi-biologiques, enfin bon, bref. Gardons ça pour le prochain film d'horreur, les amis. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Perle Bagot. Merci à Salim Assad et merci à Enguerrand Renaud pour ce super débrief de l'actu.
Saison 2023-2024, BFM TV est la première chaîne info de France, et ce, depuis 16 ans. 97% des Français regardent BFM TV. 12,3 millions de téléspectateurs chaque jour. BFM TV, première sur l'info.